France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet campagne, bonjour. Les carnets sont en majeure partie réalisés depuis le département de l'Oise. Cette semaine, l'Oise, Beauvais, son aéroport qui fait grincer des dents les riverains par le décalage du couvre-feu qui autoriserait, je mets ça sous conditionnel, les avions à voler jusqu'à 1h du matin. La plateforme de Beauvais, qui accueille près de 4 millions de voyageurs, envisage de s'étendre et de devenir une base d'une compagnie low cost. Objectif, 6 millions de voyageurs dans 4 ans et des dizaines d'emplois en sus. Selon les promoteurs, les riverains, quant à eux, plaident pour leur sommeil et une réduction d'impact environnemental. L'argent n'aime pas la nature, on le sait. Nous ouvrirons aujourd'hui une deuxième chronique solidaire avec Jean-Louis Laville, titulaire de la chaire d'économie sociale au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers. Mais tout de suite, goûtons à l'art lyrique avec Artemoise.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Catherine Dune, bonjour.
Bonjour Philippe.
Merci de nous rejoindre pour évoquer une association qui rapproche l'opéra du grand public depuis 2013 dans le sud de l'Oise, où vous êtes établi depuis longtemps avec Didier Henry. Vous êtes chanteurs lyriques internationaux tous les deux et vous avez créé Artemoise. Vous en êtes la directrice artistique. Alors nous sommes dans une région du cheval et vous avez décidé de créer des opéras équestres.
Oui, tout à fait. Alors, l'opéra équestre, c'est pas une chose totalement inédite, hein, puisque c'est un petit peu à la mode de rapprocher en ce moment l'art lyrique et l'opéra, et tant mieux. Et la spécificité du travail qu'on fait, c'est que ce sont vraiment des chanteurs d'opéra qui chantent sur les chevaux et sur les chevaux en mouvement.
Chose qui n'est pas simple, oui.
En fait, j'ai une longue histoire avec les chevaux, une longue histoire d'amour qui date de très très longtemps. Mais quand je suis venue m'installer dans l'Oise avec Didier, j'ai retrouvé les chevaux et j'ai rencontré aussi Marie-Claude Gazano, avec qui on a créé Artemoise, et qui nous voyait partir beaucoup quatre coins du monde et de la France, et qui nous a dit « mais pourquoi vous ne faites pas des projets aussi dans l'Oise ?» Et puis ce faisant, moi je montais à cheval et je retrouvais aussi beaucoup le contact avec la nature, les chevaux. Je chantais à cheval dans la forêt pour faire fuir les sangliers. Et puis je me suis aperçue que les deux étaient complètement s'harmoniser, le travail de la posture à cheval, de la respiration, de trouver la cadence dans le mouvement du cheval. Tout ça, finalement, la musique et le cheval ont énormément de points communs. C'est vraiment deux choses qui se nourrissent, qui se soutiennent l'une l'autre. Et puis au travers de... Moi, d'un côté, mon enseignement et du travail que je fais avec les jeunes chanteurs. Et puis, est née cette idée de faire des opéras équestres avec des chanteurs qui chantent à cheval.
Je retiens que les sangliers n'aiment pas l'art lyrique.
D'aucuns disent que j'ai un fan club dans la forêt des sangliers qui se massent pour m'écouter quand je passe chanter. Alors, c'est vrai.
C'est très joli. En plus, ça, vous habitez dans un cadre magnifique. Vous produisez dans des hauts lieux, en particulier à Chantilly. Vous avez donné une dernière représentation de votre festival Opéra Bio. Je me suis dit Opéra Bio. Ah tiens, vous aussi, vous suivez maintenant une ligne verte dans vos créations ?
Oui, alors c'est vrai que maintenant on voit des labels bio partout, mais ça s'est vraiment imposé de l'intérieur, du fait justement de cette relation avec la nature qui existe bien sûr dans nos productions champ-cheval, puis qui existe aussi dans tous ces spectacles qu'on fait parfois hors des scènes, des maisons d'opéra, et des théâtres, puisqu'on va aussi faire des choses beaucoup en extérieur, dans des lieux magnifiques partout dans l'Oise, dans lesquels justement on amène l'opéra à l'extérieur. Et puis aussi au Théâtre du Potager des Princes à Chantilly, qui est un lieu absolument sublime, une scène sur l'eau, entourée de jardins, donc qui permettent aussi de jouer dans un théâtre couvert, mais en même temps complètement ouvert sur la nature. Et donc on a joué déjà les Noces de Figaro, la fille Madame Angot, et là plus récemment la Suite enchantée de Mozart. On a profité de ce lieu pour tous ces spectacles.
Et donc vous limitez l'empreinte carbone à tous les niveaux, le catering pour la restauration zéro déchet, les décors, éléments de récupération, entre autres.
Oui, tout à fait. Donc on s'essaye, j'allais dire, parce que finalement, aller vers le bio et l'écologie, c'est pas une chose qui se fait du jour au lendemain. Mmh. Et donc le fait d'être ensemble sur une production d'opéra, avec des jeunes chanteurs qui sont très demandeurs, les chanteurs sont très sensibles à bien se nourrir, à bien respirer, à pas faire de déchets, etc. Donc nous, on répond aussi à cette demande, on essaye de faire ça ensemble. C'est pas facile, voilà, ça demande beaucoup plus de travail aux bénévoles, c'est beaucoup de choses à réfléchir. Il faut dire non souvent à des solutions de facilité. En trouver d'autres qui sont souvent très créatrices et qui génèrent aussi beaucoup d'énergie positive et même artistiquement énormément de plus, quoi. Mmh. Voilà. Donc des idées, on en a. Après, il faut arriver à les réaliser. Mais on s'y tient, on avance. Et vraiment, on est très heureux de tout le résultat que ça donne et de toute l'empathie que ça crée autour de nous.
Et dernière étape, enfin plutôt prochaine étape d'Artémoise, oui. Vous allez vers quelle création, Catherine ?
Bon, alors là, on continue de travailler l'opéra à cheval, parce que ça, c'est vraiment sur le temps long. On va refaire des stages lyrico équestres dans l'année et dans l'été prochain pour préparer un autre programme à cheval. Et puis, on a aussi d'autres opéras, un opéra qui s'appelle Manga Café, qu'on avait joué à Compiègne et qui va être repris aussi en 2020, en avril 2020. Donc, ça sera repris en région parisienne, au Péreux, et puis à l'Opéra de Reims, et puis dans d'autres lieux qui sont en train de se préciser. Voilà.
Sur le site artemoise.fr, chers amis, oui. Vous pouvez visionner les spectacles créés par l'association, avec aussi des vidéos qui vous donneront un avant-goût des prochains spectacles en tournée avec Artémoise. Merci Catherine.
Merci beaucoup Philippe.
France Inter, carnet de campagne.
Le festival Arabofolie se tient jusqu'au 27 octobre à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Il est question de festival musical, festival des arts et des idées. Si je vous en parle, c'est que demain, ce festival organise un forum exceptionnel de table ronde consacrée aux initiatives écologiques dans le monde arabe, dans des pays marqués par l'instabilité politique, le désir d'un développement économique prononcé, les urgences climatiques et écologiques peuvent parfois passer au second plan. Pourtant là-bas, comme ici, chez nous, des populations civiles s'emploient à modifier le cours des choses. Exemple, l'ONG Nature Irak, la société Sunbox qui installe des panneaux solaires à Gaza, ou Upfuse, une marque égyptienne de mode écologique fondée par trois femmes. Et découvrir ça demain après-midi. L'accès est libre, c'est de 14h30 à 19h15. C'est original, c'est à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Le site, c'est imarab.org. Jean-Louis Laville, bonjour.
Bonjour.
Une nouvelle chronique solidaire avec vous, Jean-Louis, je rappelle, professeur au CNAM, au Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris, auteur de nombreux ouvrages dont vous trouvez les derniers exemplaires, les plus importants, les derniers titres les plus importants à nos pages d'émission. Donc auteur, sociologue et titulaire de la chaire d'économie sociale. On va parler de je fais gaffe à ce que je vais dire, parce que à prononcer, c'est pas évident, l'associationnisme.
Oui, alors, d'abord, je pense qu'il faut voir où on en est, c'est-à-dire que ce qui se passe en France est emblématique de ce qui se passe dans le monde entier. Mmh. Il y avait 700 000 associations en 1990, avec 8 millions de bénévoles. Il y en a aujourd'hui 1,5 million et avec 22 millions de bénévoles. Ça veut dire qu'un Français sur trois de plus de 15 ans est engagé à titre bénévole dans une association, et il y a aussi 1,5 million de salariés. Donc on est dans un phénomène qui est quand même de plus en plus important en termes dynamiques. Il a beaucoup eu un essor dans les dernières décennies et on n'en parle pas. C'est une sorte de révolution invisible qui a lieu en plus dans tous les pays. Donc comment ça se fait qu'on n'en parle pas ? Je crois qu'il faut revenir un peu à cette mémoire que l'on a oubliée de l'association. Et là, on va croiser justement ce que c'est que l'associationnisme.
Ah, vous le dites mieux que moi.
Il faut dire que au début du 19e siècle, il y a eu tout un mouvement qui a essayé de prolonger la démocratie par l'association, de montrer que finalement, c'est en s'associant pour produire en commun, c'est en assurant les secours mutuels, c'est aussi en faisant ensemble des revendications politiques que l'on pourrait avancer dans cette démocratie dont on venait d'ouvrir le chemin, mais on était loin d'être au bout de ce chemin.
Et nous sommes toujours loin d'être au
bout. Exactement. Et donc, ce mouvement, il a été relativement important. Il y a aujourd'hui beaucoup de travaux d'historiens, Michel Riault-Sarcey, Mauricio Gribaudi, Samuel Hayat, qui revisitent ce premier 19e siècle et qui mettent en évidence l'associationnisme. Et puis ensuite, ça a été oublié. Ça a été oublié parce que on est rentré dans une autre période où les pouvoirs établis ont eu peur de cette auto-organisation. Et on a dévié sur une autre façon d'envisager l'association, qui était pas du tout de la même ampleur que l'associationnisme. On a finalement séparé entre différents statuts. Il y a eu d'un côté le syndicat, l'association au sens association loi de 1901, la coopérative, la mutuelle. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, tout ça s'est intégré dans une société dont les deux piliers centraux, c'était le marché et l'État. Hein. Tous les débats du XXe siècle, ils ont été focalisés sur est-ce qu'il faut plus de marché ou plus d'État. Et les associations, au sens large, se sont intégrées dans ce modèle institutionnel. Ça fait que beaucoup d'associations sont devenues, on pourrait dire, des quasi-administrations, hein, dans l'orbite de l'État social, avec parfois même une schizophrénie associative, c'est-à-dire un discours sur l'autonomie et puis en fait des pratiques clientélistes qui étaient assez répandues.
Et puis à l'intérieur des associations, fissures entre salariés et bénévoles.
Fissures entre salariés et bénévoles. Et puis aujourd'hui, on n'est plus fasciné par le modèle de l'administration, on est plus fasciné par le modèle de l'entreprise. Donc aujourd'hui, plein de gens conseillent aux associations de se rapprocher des entreprises, d'acquérir plus de professionnalisme en étant plus proche des entreprises. Or, je crois que ce que nous montre l'histoire et ce que nous montre l'actualité, cette dynamique que l'on voit en matière d'association, c'est que peut-être ce qu'il faut continuer, c'est à cheminer vers l'associationnisme, c'est-à-dire retrouver une fierté, une dignité de faire partie des associations et de montrer que c'est pas une sous-entreprise privée ou un sous-service public, mais que ça peut être un moyen de s'organiser ensemble, de s'auto-gouverner, qui a tout son sens encore aujourd'hui, et je crois qu'il y a encore plus son sens par rapport aux défis sociaux et écologiques auxquels nous sommes confrontés.
Et c'est le terrain d'exercice, comme vous le disiez, Jean-Louis, de la démocratie, en fait. On pourrait dire que la démocratie n'est possible que dans sa version citoyenne et quasi impossible dans sa version politique.
Voilà, c'est comment est-ce que finalement, et ça rejoint aussi un certain nombre de constats de sociologues ou philosophes comme Dewey, c'est que finalement, les questions difficiles, elles seront résolues non pas par des experts qui auraient tous les savoirs, mais par les gens concernés eux-mêmes. Et on est frappé, on le voit dans l'émission, comment les gens arrivent à trouver des solutions qui n'auraient pas pu être importées s'ils n'avaient pas réfléchi eux-mêmes aux problèmes qu'ils vivent.
De nombreux ouvrages, hein, l'association Sociologie, Économie, Jean-Louis La Ville, en collection plurielle, Fayard plurielle, Jean-Louis Laville, l'économie sociale et solidaire, réédition en poche, point, pratique, théorie, débat, et le dictionnaire de l'autre économie, sous la direction de Jean-Louis, en folio. Merci Jean-Louis. Avant de revenir dans l'Oise avec Nicolas Stoufflet, je signale que fin novembre, début décembre, nous traverserons, et je lance un appel pour vos messages, les départements de l'Eure, de la Sarthe et du Val-de-Marne. Eure, Sarthe, Val-de-Marne.